Bonjour, je crois que vous voulez débuter maintenant. C'est grâce à Emmanuel Thibloux, qui n'est malheureusement pas là ce soir, que nous avons le plaisir d'accueillir les cahiers, le numéro 4 sur Bataille, avec des intervenants formidables que la Fondation Ricard est très très contente d'accueillir autour de l'exposition de Pierre Le Guillon. Donc Thomas Clair, qui est un habitué d'ici, on est ravis de le voir. Arnaud Gissinger, j'espère que je prononce bien. Catherine Millet, merci d'être là. Et Nicolas Picella et Monica Marcus. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi la Fondation pour présenter ce numéro.
Merci beaucoup Colette Barbier de nous avoir accueillis à la Fondation Ricard. Pour toute la bienveillance et le travail formidable avec l'équipe, parce que c'est une joie de travailler avec Pauline, avec Quentin. Voilà. Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée de lancement du nouveau numéro de Cahiers Bataille, numéro 4, qui prend exceptionnellement forme d'un dictionnaire critique. Et c'est un clin d'œil à la revue Document, où paraissait très régulièrement une rubrique justement qui s'appelait Dictionnaire critique. Et cette revue Document, qui était fondée et dirigée par Georges Bataille, paraissait entre 1929 et 1930. Je voulais d'abord peut-être remercier tous les contributeurs de ce numéro. Ils sont très nombreux et très variés, de différentes générations, de différents métiers, de différentes positions, de différentes. Ils sont tous différents. Et je voulais les remercier pour la ferveur, pour la volonté qu'ils ont eue, pour l'encouragement qu'ils nous ont donné pour le fait qu'ils ont cru dans ce projet. Désolée, je ne voulais pas me préparer trop. Je voulais que cet événement soit beaucoup plus humain et normal, qu'on se sente tous concernés, tous partis de cette entreprise, et c'est pas toujours facile. Je voulais aussi remercier le Cercle Champ de Bataille, donc tous ces jeunes gens qui depuis 2014 travaillent ensemble, on se rencontre assez régulièrement pour parler de Georges Bataille, et c'est eux aujourd'hui qui sont un peu partout disséminés. Et je voulais bien évidemment remercier notre éditeur, la maison d'édition, l'édition Les Cahiers, Jean-Sébastien Galère, qui ne peut pas être avec nous ce soir, de nous avoir donné carte blanche pour ce numéro, et de nous avoir permis de le concrétiser matériellement. Et je vais vous dire que je me suis baladée aujourd'hui aux Tuileries et il y avait un grand soleil. Et je me suis dit, ou il m'est venu à l'esprit une phrase de Bataille, et cette phrase disait « L'homme est si peu le soleil ». Ça veut dire que, en tout cas, l'interprétation que je fais de cette phrase, c'est qu'on a du mal à se donner comme se donne souvent, qu'on se donne toujours le soleil. Ça veut dire qu'on soit se protège ou on accumule, on a du mal parfois de s'ouvrir. Et je me suis dit que peut-être avec cette entreprise, en tout cas c'est ce que j'espère, on a pu être un peu le soleil. Et c'est avec tous les contributeurs, à la fois ceux qui ont écrit le texte, avec ceux qui sont venus ce soir, nos nouveaux contributeurs, avec tous ceux qui sont venus ici, aujourd'hui, ce soir, intéressée par ce projet. Bah, c'est un don, tout simplement. Et je pense que c'est une manière bataillenne de commencer le printemps aussi, sous ce signe du soleil. Voilà. Je vais tout de suite passer et je voulais dire juste un petit mot sur cet ouvrage avant de passer la parole à Nicolas et ensuite à nos intervenants. Que c'est un ouvrage qui rassemble d'environ 70 auteurs, écrivains, éditeurs, artistes, commissaires d'exposition, chercheurs, enseignants, psychanalystes, de provenance géographique, de points de vue intellectuels et politiques, de métiers et de générations, je pourrais même ajouter de personnalités différentes. Les textes réunis sont aussi de registres variés. On y retrouve les textes didactiques, poétiques, scientifiques, les témoignages, les interviews. Et l'idée de ce dictionnaire, c'était aussi de ne pas prendre bataille comme un objet scientifique. En tout cas, c'était une des manières de prendre bataille, mais aussi de jouer avec lui. Donc, de ne pas nécessairement écrire des textes qui se soumettent à la lettre de bataille, mais de partir de ses idées. Et à force de la stimulation que ces idées provoquent, d'écrire quelque chose qui soit en décalage avec la pensée de bataille et surtout qui soit très propre à celui qui écrit. Que ça soit surtout un texte qui vient de la personne qui écrit. Donc bataille joue le rôle d'un élément commun qui stimule chacun mais de manière différente et qui provoque ou qui donne des résultats aussi très différents. Et c'est pour ça aussi qu'on cherchait de rassembler de personnes très très différentes pour avoir une sorte de panoplie de différentes visions de bataille. C'est pour ça aussi que nous avons appelé un peu cet ouvrage écuménique pour essayer de brasser le plus largement possible sans... Et sur ce point, je voulais insister, sans chercher l'exhaustivité. Donc, ce n'est pas un ouvrage encyclopédique, il est inachevé et même un achèvement, je pense, soit impossible. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas pour qu'il dise un petit mot sur Georges Bataille et peut-être sur une surprise qui se retrouve à l'intérieur de cet ouvrage. Et ensuite, on va passer à notre table ronde. Merci.
Merci Monica. Merci à vous tous d'être présents si nombreux ce soir. Et oui, en effet, mon rôle sera de présenter un petit peu la figure de Georges Bataille pour ceux qui ne la connaîtraient pas tout à fait. Et de m'attarder aussi sur une entrée particulière qui est contenue dans ce volume. Mais pour revenir à Bataille, pour commencer avec quelques petits détails concernant sa vie. Comme vous le savez, Bataille est né en Auvergne en 1897 et il est mort à Paris en 1962. Je dirais que Georges Bataille est un auteur à la fois majeur et mineur. Majeur par l'étendue et l'audace de sa pensée, et mineur par son style d'écriture, qui est parfois un peu rugueux, et mineur surtout par l'exigence que ses textes demandent au lecteur, c'est-à-dire l'exigence de se questionner sans détour, de se minorer en quelque sorte en tant que sujet représentant, en tant qu'acteur du cogito cartésien. Mais somme toute, il n'a jamais cessé de nous inviter à vivre à hauteur de la mort et de la tragédie qu'elle définit. Mais pourtant, il s'agit d'un tragique heureux que seule la chance peut éclairer, en quelque sorte. Et je veux me rappeler brièvement la tragédie gay que la vie de bataille a été. Donc, il a été marqué par la Première Guerre mondiale, et notamment par l'incendie de la cathédrale de Reims, et par l'abandon de son père, qui était gravement handicapé, il était aveugle, paralytique, un père qu'il ne reverra plus. Et c'est un abandon qui lui causera des remords sans fin. Et en fait, on pourrait dire que Bataille inscrit toute son écriture sous le signe de la culpabilité qui est liée à cet abandon. Et cette mort, qui est doublée de celle de sa compagne Colette Peignot, ou Laure, en 1938, déchaînera chez Bataille une jouissance qui, suivant la leçon lacanienne, va associer l'extrême douleur et le plaisir ultime selon des fluctuations dictées par les aléas de la vie, on pourrait dire. Pour revenir à sa vie, en fait, après une petite parenthèse assez littérature de fou, comme il le dit, parenthèse représentée par WC, par l'histoire de l'œil à la fin des années 20, Bataille s'engage politiquement et intellectuellement dès le début des années 30, où il critique le marxisme, analyse le fascisme, se méfie des surréalistes, il approfondit Nietzsche et surtout il lit Hegel avec Kojève. Et pour affirmer ses positions vis-à-vis de l'époque, il crée ou participe à des revues, à des sociétés, les unes plus secrètes que les autres, comme par exemple Documents, la critique sociale, Acéphale, le collège de sociologie, la société de psychologie collective, le collège socratique, et enfin la revue critique à partir de l'après-guerre. Et en effet, la Deuxième Guerre mondiale représente un tournant dans sa production. À cette époque, il se réfugie à Vézelay, en Bourgogne, où il écrit ou achève les plus ardents de ses livres, par exemple L'expérience antérieure, Le coupable, sur Nietzsche, La haine de la poésie. Et à partir de cette époque, il ne s'engagera plus politiquement, mais il n'arrêtera pas. N'arrêtera pas pourtant de penser et d'écrire en élargissant sans cesse ses horizons. Il travaille sur La part maudite, rédige la biographie de Manet, se fascine pour les grottes de Lascaux, il écrit l'érotisme, il publie Le bleu du ciel, et puis il commente le procès de Gilles Doré, il pense le mal, la littérature, le sacré, le péché. Et en fait, ses ambitions intellectuelles deviennent de plus en plus larges avec des idées comme celle de la somatologie, par exemple, ou bien de l'histoire universelle, qui est un projet immense qu'il aborde vers la fin de sa vie, et puis surtout de la revue critique. Et ce dernier substantif critique me permet de revenir sur l'opération que l'on présente ce soir. Et s'il est vrai qu'un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les besognes des mots, c'est le mot de Bataille dans Documents, alors il faudrait s'interroger aussi critiquement sur la besogne du mot dictionnaire. Et c'est un mot dont la tâche est difficilement définissable puisqu'elle déborde en quelque sorte toutes les tâches prévues par les entrées qu'il abrite. Et un peu comme le mot Dieu serait le mot qui dépasse le mot, les mots, et qu'on ajoute impunément au langage. C'est Bataille qui le dit dans la préface à Madame Edouarda, il dit « Dès l'instant où nous le faisons, c'est-à-dire ajouter le mot Dieu au langage, ce mot se dépassant lui-même, détruit vertigineusement ses limites. » Et c'est pourquoi je pense que tout dictionnaire devrait tourner autour d'une tâche aveugle, pour jouer un petit peu avec les mots, cette même tâche aveugle qui, dans l'expérience antérieure, signifie la perte de connaissance qui est liée à l'entendement quand il envisage l'homme lui-même, c'est-à-dire une exploration du possible, de l'être. Possible de l'être. Eh bien, dans ce dictionnaire, la tâche aveugle est représentée par une entrée signée par Bataille lui-même. Et, il s'agit d'un petit texte inédit qui date vraisemblablement de 1946-47, on ne sait pas trop, lequel, ce texte, circonscrit parfaitement, je pense, l'étendue de ce possible de l'être qui est l'homme et qui par conséquent est aussi ce dictionnaire. Car il faut le dire, ce volume n'a nullement la prétention d'être didactique. Il nous apprend que aller du connu à l'inconnu, du raisonnable à l'irraisonnable, du sérieux au risible, et de, je dirais aussi, de la pudeur à la honte. Et justement, honte est la notion qu'on a décidé d'attribuer à cette entrée, parce que le texte n'avait pas de titre. Et pour comprendre pourquoi honte, j'aimerais bien citer quelques lignes de ce petit texte qui est assez aphoristique. Et il est même parfois un peu drôle. Je cite brièvement. Il y a longtemps qu'en derrière révélé hors de propos fait rire. La méditation s'attarde au scandale de Jésus en croix. Mais le derrière qui fait rire, et dont Jésus lui-même aurait dû rire, si son humanité fut plus qu'une apparence, n'est pas un moins divin objet de scandale. Un derrière joli ou difforme et mourir enfantant font paraître la vérité. Si l'on parle de vérité, si l'on philosophe, sans dire que le derrière fait rire, la philosophie est la vieille dame dont la jupe fait la dignité, mais non la jeune fille à qui on l'ôte. Une pensée qui n'est pas à la mesure d'un mot obscène est comme une maison qu'un léger vent renverserait. L'obscénité est le cœur. On ne peut concevoir l'homme sans l'obscénité, plus qu'on ne le pourrait n'ayant jamais eu d'église ni de sacrifice. Le cœur est tellement l'obscénité qu'en dehors de Dieu, qui n'est qu'un abîme, couvre l'obscénité de la mort, en dehors de Dieu, la mort exige infiniment ce qu'il ne peut nommer. Ce n'est pas le Christ que l'humanité a mis au tombeau, mais les jaillissements criants et renouveleux qui lui donnent la vie éternelle et dont est la honte. Cette part essentielle, travail, logique, ordre public, éducation, de la vie que fonde la honte et qui ne serait pas sans la honte, est aussi utile que le pain. Mais dans la mesure où l'homme n'est pas misérable, asservi par tous les besoins qu'il lui faut satisfaire, la honte qu'il assume, qu'il aime, qu'il grise, tant que rien ne le rend plus fier ni plus libre, est à la face apparente de la vie ce qu'une certitude intime est à la parole tricheuse. La pensée est boiteuse que n'emporte pas le bonheur de la honte. Je conclurai en disant que si bataille est encore actuelle aujourd'hui et que ce dictionnaire a effectivement une besogne, elle ne consisterait qu'à nous rappeler que l'obscénité est le cœur de toute architecture de la pensée, y compris de celle qui énerve ce volume. Et que la mesure de notre activité dans le monde ne peut ne pas être la honte qui nous permet d'en transgresser les limites après les avoir tracées et surtout d'en rire.
Je voulais peut-être ouvrir ce panel avec nos trois invités. Donc quand j'avais dit avant, c'est un ouvrage qui n'a pas vocation encyclopédique, ça veut dire qu'il n'est pas exhaustif. Nous avons voulu pointer son inachèvement en invitant, ou son achèvement impossible, en invitant trois intervenants, chacun dans son domaine spécifique, qui vont enrichir ce dictionnaire de trois entrées, disons. Et je vais passer la parole tout de suite à Catherine Millet, donc la fondatrice de la revue Art Press et la directrice de la rédaction, qui est connue aussi par sa plume en tant que critique d'art, d'abord, en tant qu'écrivaine aussi, à la fois dans la littérature. Je peux citer le livre Aimé Lawrence, par exemple, qui était récemment publié, ou son écriture autobiographique avec le livre que j'imagine que tout le monde connaît, La vie sexuelle de Catherine M. Je passe la parole à Catherine.
Merci. Bon, oui, en fait, moi, j'avais plusieurs entrées possibles, évidemment, puisque j'ai plusieurs casquettes. Et je suis ici présente ce soir à cause d'une culpabilité, ça tombe bien. Hein. Et ma culpabilité, c'est que vous m'aviez sollicité pour participer à ce cahier et que j'ai d'abord dit oui, j'ai dit mais il me faut du temps, et puis le temps a passé, puis j'avais pas le temps, et puis finalement j'ai pas donné ce texte. Donc lorsque vous m'avez à nouveau contacté pour cette soirée, bon, ma culpabilité était telle que même si j'avais pas l'impression que j'avais tellement de choses à dire finalement sur bataille, parce que je suis pas du tout une spécialiste de bataille, j'ai quand même dit oui. Alors finalement l'entrée que j'ai choisie, c'est Manet, à cause du Manet de bataille. Et je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que en regardant un peu, j'ai pas encore vraiment lu le cahier, mais j'ai vu qu'il y avait pas vraiment. Alors j'ai compris depuis que les entrées étaient pas forcément justement académiques, c'était pas forcément les thèmes de bataille lui-même qui les avait commandés. Mais enfin, ça m'avait frappé qu'il y avait pas Manet, il y avait pas Lascaux. Et puis vous m'avez appris que voilà, il serait question de Lascaux ce soir. Je me suis dit bah alors s'il est question de Lascaux, je vais dire deux mots de Manet, et je vais dire deux mots de Manet en regard quand même de l'importance que ça a été la lecture de ce Manet. J'irai pour simplifier pour nous à Art Press. Voilà, ça a été une lecture très très importante. On a fait différents dossiers bataille tout au long de la vie de la revue. Récemment, on a accompagné Léa Bismuth qui a fait une série d'expositions autour de la pensée de bataille au centre d'art de la banque. Et voilà. Et donc, voilà, bataille a toujours été très, très présent. Et je pense que, outre, bien sûr, la pensée, ce que vous avez rappelé de la philosophie de bataille, qui n'est d'ailleurs pas une philosophie au sens strict, enfin, qui n'est pas non plus une philosophie au sens académique, et bien sûr de ce qu'il a dit sur l'érotisme, je pense que ça a joué aussi beaucoup pour nous à Art Press. C'est un préambule, pardon, qui n'en finit pas. Mais je suis en train de penser aussi que lorsque vous m'avez sollicité, je pense que c'était justement sur la base du livre sur Lorenz que je venais de publier. Donc, D.H. Lorenz, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley. Et il se trouve que vers la fin du livre, donc je le rappelle, moi qui ne suis pas spécialement une spécialiste de bataille, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin d'aller chercher Bataille pour établir une sorte de parallèle entre l'écrivain anglais et Bataille. Et qu'est-ce qui m'a amené à établir ce parallèle? C'est les représentations, les figures féminines dans leur littérature. Mon livre sur Lorenz porte essentiellement sur les figures féminines. Et il faut bien... Alors, je ne sais pas s'il y a des néo-féministes dans la salle, mais un soir où on parle de bataille, je ne pense pas qu'il y en ait trop. Ce qui me frappait dans ces héroïnes de Lorenz, c'est que c'était essentiellement elle qui avait l'initiative de l'obscénité. C'était elle qui entraînait l'homme sur le terrain de l'obscénité et parfois de l'obscénité un peu raide, quoi. Hein. Bon, voilà. Et alors, bon, évidemment, constatant cela, je ne pouvais pas aller voir Bataille, relire Bataille. Et je suis dans la culpabilité, je suis dans l'aveu. Je pense qu'à ce moment-là, c'est en écrivant ces pages-là que j'ai compris. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour se comprendre soi-même, que j'ai compris pourquoi j'avais toujours résisté au roman de bataille. J'ai adoré lire le Manet. Je pense qu'à une époque, je devais presque le citer par cœur. Le Lascaux, ça a été très, très important pour moi. Tous les écrits théoriques, bien sûr, ça, souvent je suis allée puiser dedans. Mais finalement, les romans, j'avais une résistance. Il avait vraiment fallu que je fasse un effort sur moi-même pour les lire et pour les lire jusqu'au bout. Et parce que, en effet, ça expose des fantasmes qui sont, si on a un peu d'imagination et qu'on se les représente, ces fantasmes, il faut en supporter la vue, j'ai envie de dire. Bon, et je suis une femme, et donc dans ces romans, ce sont les femmes qui entraînent les hommes dans ces aventures obscènes. Et je me suis rendu compte, à l'occasion de l'écriture de ce livre sur Lorenz, à quel point ces fantasmes décrits par Bataille, qui sont quand même des fantasmes écrits par un homme, qui sont, même si c'est une figure féminine qui en est l'actrice principale dans les romans, je me suis dit, mais ça correspond tellement profondément à des fantasmes qui m'habitent, que ça m'a fait, c'est ça qui m'a fait peur, Et je pense qu'il y a une sorte de vérité, en tout cas moi je le ressens comme ça avec ma personnalité, il y a une vérité très très grande qui s'exprime aussi sur sur la nature féminine, Et je pense qu'on le dit peut-être pas suffisamment souvent à propos de Bataille. Bon. Je referme cette très longue parenthèse et j'en viens à l'importance qu'a eu pour nous la lecture des ouvrages sur l'art de Bataille. Alors Lascaux, il va en être question plus tard. Donc à propos de Manet. Alors pour nous, la lecture de Manet, évidemment, c'était comme si on avait lu Arprès, je le rappelle, a été créé en 1972. Et dans un esprit d'importer un modernisme qui à l'époque manquait beaucoup en France et dont on pensait qu'il s'était en partie réalisé aux États-Unis au travers notamment de l'abstraction américaine. Et on a trouvé dans le Manet de Bataille de quoi en tout cas mieux comprendre cette peinture qui était une peinture, si on pense à des œuvres sur lesquelles, alors moi personnellement j'ai beaucoup écrit, comme Barnett Newman, comme Odd Reinhardt, etc., une peinture qui est quand même une peinture de la distance, beaucoup, qui est une peinture extrêmement radicale, c'est l'exploitation des grandes surfaces monochromes, etc. Bon. Alors, ce qui a été fondamental pour nous, c'est tout le passage dans le Manet où Bataille commente l'approche que Malraux fait de Manet. Et nous, on a publié des textes entiers sur cette question Malraux-Bataille autour notamment du tableau de Manet qui est l'exécution de Maximilien, puisque vous savez, ce tableau est sans doute pour une grande part inspiré, en tout cas dans sa composition, du 3 mai le 13 des Maillots de Goya. Et donc Malraux d'abord, puis Bataille établissent la comparaison entre les deux tableaux pour montrer où est la révolution produite par Manet. Alors cette révolution, je crois que le Bataille a une formule très, très courte et très juste. C'est qu'en fait le 3 mai de Goya et nous montre un drame, un homme qui lève les bras pour refuser la mort qui s'annonce. Il y a une lumière qui est une lumière de feu, donc il y a un drame qui est très très présent, et évidemment ça contraste beaucoup avec l'exécution de Maximilien par Manet, qui est au contraire traité dans une lumière froide. Les condamnés sont dans un arrière-plan un peu flou, c'est des pantins assez inexpressifs, et les soldats eux-mêmes qui tirent sur les condamnés et qui sont les exécuteurs de la condamnation ont l'air aussi de mannequins de bois qu'on a mis dans la position du tireur, mais sans aucun affect. Et la formule de bataille que j'annonçais, c'est le tableau, celui de Manet, nous atteint par l'absence. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, troublant et paradoxalement touchant dans ce tableau, c'est précisément l'absence de sentiments. Et en fait, c'est très, très intéressant de creuser le sujet, parce que le jugement de Malraux sur ce tableau, il est d'abord assez sévère. Il dit Manet n'a pas réussi à se dépêtrer de ce thème. Il est resté embarrassé par ce thème. Bon. Et puis finalement, il en conclut avec raison. Il dit, enfin avec raison, c'est justement la chose à discuter. C'est parce que c'est déjà le tableau moderne, dans le sens où ce qui compte, c'est la peinture pour elle-même, et le sens, ce que ce tableau représente, et qui est quand même une scène extrême, l'exécution de trois hommes par un peloton de soldats, le sujet néanmoins disparaît. Bon. Et donc la petite nuance qu'apporte Bataille, c'est de dire, mais c'est justement ce retrait, cette absence d'émotion, cette distance qui est très troublante. Et en fait, c'est ça, moi, je pense qu'il faut souligner, c'est que ce que Bataille nous fait comprendre de cette peinture de Manet, et peut-être pour une grande part de la peinture moderne, c'est qu'il n'y a plus de discours qui soit possible, justement, face à ce vide, à cette béance dont on vient de découvrir en quelque sorte l'immensité en quittant Dieu, en quittant la religion. Et on est là confronté à la mort, et la mort nous dépossède du sens. Et en fait, ce qui est, à mon avis, très puissant dans le texte de Bataille, c'est qu'il nous fait comprendre que, à la différence de Malraux qui règle le problème en disant on est en face à un tableau moderne, ce qui compte, c'est l'exposition de la peinture pour elle-même, c'est l'art pour l'art, en quelque sorte, ce qu'on a tellement reproché à la modernité, parce qu'il n'y a plus de sens. Et je pense que ce que nous fait comprendre Bataille, au contraire, c'est qu'il y a du sens, mais qu'il est en train de se retirer. Voilà. Et que nous-mêmes, nous sommes dans cette prise de distance, comme ça, par rapport aux enjeux qui sont représentés dans le tableau. Et ça, je crois que c'est très important. Vraiment, je vous encourage à lire ou à relire ce livre-là, et notamment ce passage sur cette comparaison entre le tableau de Goya et celui de Manet, parce que je pense que c'est un enjeu qui me paraît toujours d'actualité, parce que il me semble qu'il y a quand même une grande partie de ce qu'on appelle l'art contemporain qui au contraire est extrêmement bavard et qui face justement à des drames qui sont l'équivalent aujourd'hui de l'exécution de l'empereur Maximilien, qui sont voilà qui qui sont des commentaires à l'infini des drames de l'actualité. Enfin, moi, je ne sais pas votre opinion là-dessus, mais je trouve que l'art contemporain est souvent envahi par une pensée comme ça du politiquement correct. Hein, il faut nous expliquer que la guerre, ce n'est pas bien, que les migrants, il faut s'en occuper, etc., etc. Et je me dis quand même, les artistes qui tiennent ce discours, ils auraient un peu en tête voilà, que c'est idiot de répéter ce qu'on entend au journal télévisé, qu'il faudrait se mettre dans cette distance comme ça. Ça leur permettrait de produire des œuvres qui seraient peut-être un petit peu plus intéressantes. Bon, voilà, je pourrais continuer parce que finalement, il y a d'autres idées qui me viennent en tête, mais je ne sais pas si combien de temps on a pour chacun pour rediscuter.
On va essayer peut-être faire ça dans le temps avec l'échange avec le public, peut-être, je pense. Donc maintenant, je vais passer tout de suite la parole à Arnaud Giesinger, qui est photographe, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles et qui aussi est un historien, donc il a une double casquette, lui aussi. Et qui travaille beaucoup sur la question de mémoire et de l'oubli et de l'histoire de l'art également, ce qui dont fait preuve par exemple l'installation au Palais de Tokyo qu'il a présentée avec Georges Didier Huberman autour de l'atlas Mnemosyne de historien d'art allemand Abi Warburg. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et bonsoir. On enchaîne bien, je pense, avec les images, mais je vais peut-être vous décevoir d'une certaine façon parce que je vais décaler le livre sur Lascaux vers la question de la photographie. Mon entrée dans l'univers Bataille s'est faite tardivement, aussi des aveux, évidemment, indirectement, et d'une certaine façon, un peu par la fin, ou à rebrousse-poil, comme disait Benjamin. Lors d'un séjour avec ma compagne dans la vallée de la Vézère, berceau et lieu d'invention de ce que nous appelons communément préhistoire, nous lisions le livre de Daniel Fabre, « Bataille à Lascaux, comment l'art préhistorique apparut aux enfants ». 2014. Je dois vous avouer que je ne suis pas spécialiste de Bataille ni de préhistoire, mais la lecture de ce livre et surtout l'expérience de l'art pariétal dans les hauts lieux comme Fond de Gaume ou les Combarelles, qui ne laissent pas indemne évidemment, m'ont amené à regarder de près ce livre, ce très grand classique de Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l'art, publié chez Skira en 1955. Voici la couverture du livre. J'ai amené le livre, mais j'ai aussi amené un petit silex, hein, si vous voulez toucher le silex par rapport aux images qui seront intouchables ici par projection. Et puisqu'on parle d'images, on va parler effectivement de la question de la lumière et on va parler de la question de la couleur aussi, puisque vous le savez très probablement, il s'agit là du premier tome d'une histoire comparée de la peinture, avec le titre aussi « Les couleurs des siècles ». Donc couleur là dans le double sens, parce que couleur, d'après la définition de Skira, un peu de, on va dire un style d'une époque, mais aussi couleur parce que cette collection était très révolutionnaire dans sa façon de produire des livres, notamment des reproductions en couleur, qui ne sont pas encore vraiment imprimées sur les pages, mais qui sont collées sur les pages. Donc c'est assez étonnant pour nous aujourd'hui, mais il faut s'imaginer une époque où les œuvres d'art se regardaient en noir et blanc, étaient transformées en noir et blanc. Donc la création de ce livre, qui a évidemment profondément marqué l'histoire de l'art du XXe siècle, Catherine vient de le confirmer, était une aventure commune entre donc Georges Bataille et Albert Skira, leur épouse aussi en partie, mais également de deux photographes, chose qu'on oublie souvent. Donc je suis là aussi pour réhabiliter les photographes. Hans Hinz, photographe balois, et Claudio Emmer, deux photographes qui ne sont pas rentrés dans l'histoire de la photographie parce que c'était des photographes, on dit, appliqués ou vernaculaires, si vous voulez, qui étaient là comme des opérateurs qui faisaient effectivement les images de Lascaux. Et pour moi, d'une certaine façon, un peu l'invention des images de Lascaux comme de la peinture. J'aimerais bien appeler cette petite intervention « Bataille ou l'invention de Lascaux par la photographie couleur ». Dans la préface, Albert Skira décrit cette expérience comme une apparition. Je cite « Nous avons passé des nuits sous terre, aveuglés par des projecteurs qui, répandant sur ce monde magique une puissante lumière, nous faisait découvrir et l'éclat original des couleurs et certains détails invisibles à l'éclairage ordinaire de la grotte. » Je vais revenir tout à l'heure un peu là-dessus. Donc, l'éclat original des couleurs, certains détails invisibles à l'éclairage ordinaire de la grotte. Donc, vous savez que la grotte est ouverte depuis peu, après la Seconde Guerre mondiale, découverte en 1940, et elle est visitée par beaucoup de gens à partir de 48. En même temps, Skira, qui est un homme très intelligent, qui est en contact évidemment aussi avec Malraux et avec plein d'autres contemporains, voit très bien les limites de la photographie. Et il dit dans sa préface, je recite, il fait une distinction entre la perception, entre l'œil et le corps, je dirais, et les images photographiques reproduites dans le livre. Je cite, « Ce que l'œil voit n'est pas nécessairement ce que l'appareil photographique enregistre. Il faut le dire, les peintures de Lascaux sont mouvantes. Elles ne se présentent pas comme des surfaces planes dont on aurait une vision parfaite en se plaçant face à elles, à 2 ou 3 mètres de distance. Les artistes de la grotte ont tiré bien parti du relief et des aspérités des parois, tout comme de la perspective des salles. Car à chaque pas, tout change. Quel est le point de vue idéal? Chaque visiteur doit avoir le sien, et les hommes de Lascaux avaient le leur, que nous nous sommes efforcés de comprendre. Ajoutant que les sujets de Lascaux se défendent à la caméra, ou de la caméra, pardon, ils n'existent pas, pour la plupart d'entre eux, ce recul ou de recul suffisant pour les photographier. Donc Skira, qui passe effectivement des journées et des journées sous terre et qui observe ces deux photographes avec leur grande lampe qui l'amène dans une grotte, on va dire, à l'époque. Évidemment, il est pris par cette aventure et il fait l'expérience avec les photographes que tout d'un coup, on va voir ces peintures, pas du tout comme elles ont été faites ni vues à l'époque, mais sous la lumière des grandes lampes photographiques. Et donc, il dit, ça révèle des détails. Et puis, on peut voir enfin, je rajoute, un peu les couleurs originales. La relation entre Bataille et Lascaux a fait couler beaucoup d'encre, vous le savez. Et en effet, quand on lit aujourd'hui les thèses audacieuses de Bataille sur l'invention de l'art par l'homme de Lascaux, on se rend compte que le texte est assez daté, probablement, et marqué, évidemment, par son temps. Donc, vous le savez, les spécialistes préhistoriens ont beaucoup critiqué cette vision que Bataille a à l'époque. Mais je ne vais pas rentrer dans les contenus du texte. Je vais m'intéresser, effectivement, pendant les 10 minutes qui suivent, à Lascaux et les images photographiques. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de poser cette question de la photographie comme une sorte d'invention de Lascaux par des images. On aurait pu d'ailleurs imaginer effectivement une entrée, voilà, Lascaux ou Bataille et la photographie, etc. Je sais que vous savez aussi que Bataille, évidemment, a beaucoup de connaissances, une connaissance très poussée de la photographie contemporaine, de ses contemporains, évidemment, il suffit de regarder documents, etc., etc. Mais je n'ai pas trouvé trace véritablement, mais puisque je ne suis pas spécialiste, je suis très prudent, d'une approche conceptuelle de la photographie. Est-ce que Bataille aurait réfléchi vraiment sur la photographie? J'ai posé la question à quelques spécialistes, on m'a dit non, mais évidemment, vous le savez bien, c'est un monteur d'images absolument inouï, et puis là aussi, il suffit de regarder effectivement la revue Document. Mais il y a une coïncidence qui est importante, car avant le livre sur Lascaux, le même Albert Skira avait publié Le Musée imaginaire. Le Musée imaginaire de Malraux, 47. Et vous connaissez la fameuse phrase sur les relations entre la photographie et l'histoire de l'art. Je cite cette fameuse phrase de Malraux. L'histoire de l'art, depuis 100 ans, depuis qu'elle échappe aux spécialistes, et l'histoire de ce qui est photographiable. Autrement dit, et j'extrapole un petit peu, depuis l'invention de la photographie et son rôle de reproductibilité et de reproduction des œuvres, nous connaissons l'art à travers la photographie. Donc ce qui n'est pas photographié n'est pas connu. Et je pense que c'est un phénomène qui est démultiplié aujourd'hui, évidemment, avec les circulations des images. Donc une question se posait de façon très importante à l'époque. Donc en effet, on est au début des années 50. Est-ce que ce lieu, Lascaux, est photographiable? Et si oui, comment on le photographie? Donc je vous montre deux petites photographies qui montrent effectivement cette expérience, bien évidemment en noir et blanc. On voit ici quelqu'un qui regarde l'art pariétal, hein, avec un livre dans la main et avec une sorte d'admiration. Hein. On est effectivement dans une petite photographie de documentation de ce vécu. Et puis on a une deuxième image, Bataille et Albert Skira à Lascaux. Et vous voyez effectivement Bataille qui montre quelque chose et Albert Skira qui fait une photographie. Donc, il fait probablement avec son petit Leica une photographie. Mais bien évidemment, pour faire cette photographie, il y a un photographe qui est derrière. Et c'est le fameux Hans Hinz qui va non seulement photographier l'expérience de ses peintures, mais aussi l'expérience tout court de cette perception des images. Et vous le voyez très bien sur cette image-là, il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière parce que Hans Hinz et Claudio Emmer vont amener donc beaucoup de lumière, hein, ce qui pour eux est totalement logique dans la conception. Et juste un mot sur les deux photographes. Hans Hinz était le grand spécialiste de la reproduction des œuvres à l'époque, balois, un des premiers à expérimenter effectivement avec la couleur. Vous le savez peut-être, la photographie couleur, bah, c'est un fantasme du 19e siècle, mais jusqu'à l'autochrome au début du 20e, on n'a pas cette possibilité de la photographie en couleur. Ça commence dans les années 30-40 à rentrer vraiment dans les usages de la photographie. Mais par contre, reproduire des œuvres, ça reste extrêmement difficile, et surtout aussi d'imprimer les photographies en couleur. Il y a une relation très intéressante qui est montrée dans cette image que j'ai prise dans une revue suisse, D'où, que vous connaissez peut-être, qui a fait un petit reportage il y a quelques années sur Hans Hinz, le grand inconnu, en fait, l'opérateur que tout le monde a oublié dans cette histoire. Et ce Hans Hinz, il a photographié ici en 53 à Milan, le Palazzo Reale, une exposition de Picasso de 53, les grandes œuvres de Picasso. Ici, vous voyez la guerre, et c'est en couleur, ce qui est effectivement pour les contemporains un petit choc visuel, on va dire. Et c'est très intéressant parce que ce tableau est, comme vous le voyez, posé sur cette structure, et derrière, vous voyez le Palazzo Reale qui est encore un peu en ruine, dû au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Et en l'occurrence, c'est le même Claudio Emmer qui, lui, a fait des photographies de Milan bombardé en 1943. Donc les deux hommes se connaissent. Claudio Emmer cale un petit peu sur cette question de la reproduction de la couleur. Et c'est finalement Hans Hinz qui va amener effectivement sa connaissance. Donc je ne vais pas vous faire un long débat sur cette question, je voulais juste pointer deux questions essentielles qui, pour moi, effectivement, font que Lascaux est inventé photographiquement. Tout d'abord, la question de la lumière. Et deuxièmement, la question de la couleur. Donc, je vais très rapidement vous montrer quelques images pour, de façon un peu déontologique, faire cette analogie avec deux grandes conceptions, deux grands mythes, si vous voulez, qui travaillent avec la question du souterrain, de la grotte. D'un côté, vous avez le mythe de la caverne, ici représenté avec une lithographie de 1604 de Jan Sandredam. Et puis évidemment aussi la question de la caméra obscura, aussi on est au XVIIe siècle avec Athanasius Kircher dans Ars Magna Lucis et Ombre. Donc probablement il y a une relation assez étroite entre cette question de la lumière ou de l'absence de la lumière, entre la connaissance, évidemment la caverne, mais aussi la formation de la photographie qui, comme vous le savez, est basée sur le principe de la caméra obscura. Et le Daniel Fabre que j'ai cité tout à l'heure est effectivement quelqu'un qui va aussi dans son livre faire la comparaison entre ces découvertes des cavernes, des grottes, et en parallèle au XIXe siècle le culte de la lumière ou les cultes de la lumière, les apparitions de Marie, une relation très intéressante que j'ai trouvée moi aussi intéressante dans la question photographique même, et je reviens évidemment à la question de comment on produit des images au XIXe siècle et au XXe siècle. Je vous montre une petite illustration ici, typique d'une situation de prise de vue dans un studio photographique, pour vous dire que très logiquement, dans un siècle qui ne connaît pas encore l'électricité et les flashs et les grandes lampes, une prise de vue à l'intérieur se fait en lumière du jour. C'est-à-dire qu'on fait rentrer par des vitres la lumière du jour, le photographe en face de son modèle, et vous le voyez ici, on dirige cette lumière du jour, où on la soutient avec des réflecteurs aussi, mais en tout cas, on prend de la lumière qu'on va poser effectivement sur cette personne qui est éclairée par le plein et par la lumière. Il y a un changement radical et fondamental dans le XXe siècle parce que les photographes de studio vont éclairer les choses à partir du noir. Donc un studio photographique ou un studio cinématographique par définition est noir, comme une grotte, et on va amener de la lumière. Donc toute la question va être comment on amène de la lumière dans ces espaces. J'ai une petite citation de mon amie Marina Gadonex qui a fait cette magnifique série de photographies qui s'appelle After the Image, où elle a photographié des dispositifs de reproduction d'œuvres d'art, mais juste dans le moment après. Donc l'œuvre a disparu de cette situation, mais vous voyez que les sources lumineuses, en fait, que le photographe avait posées pour photographier ces sculptures. Donc, pour vous dire que effectivement, cette question de la lumière est très importante pour Lascaux, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a trop de lumière. On amène beaucoup de lumière et on va, d'une certaine façon, presque écraser les peintures. Donc, on va voir des choses qu'on ne peut pas voir, mais en même temps, on éclaire presque trop. Et puis une deuxième question, très rapidement, la question de la couleur, qui est aussi essentielle à la photographie, comme je disais tout à l'heure. Pardon. Il faut se rendre compte là aussi que la couleur en photographie est bien évidemment une construction. On ne peut pas directement photographier la couleur. Toute la photographie couleur dans son invention technique est l'idée de reproduire techniquement, chimiquement ou de façon électronique aujourd'hui, quelque chose qui va se rapprocher de la question de la perception de l'œil. Donc évidemment, photographier avec ces lampes-là, ces peintures, c'est très compliqué tout d'abord techniquement, mais après c'est aussi la question de quelle couleur parle-t-on et de quelle température de couleur parle-t-on. Donc mon hypothèse de travail, je vous montre quelques images de ce livre de l'intérieur que vous connaissez peut-être. Donc il y a des prises de vue des cavités où on voit effectivement cette situation, je pense que Skira et Bataille insistaient beaucoup là-dessus, de montrer effectivement toute la situation quand on rentre, mais il y a aussi surtout, et ce qui m'intéresse, donc une deuxième vue effectivement, pour vous redonner envie de lire et de regarder ce livre. Mais il y a aussi un effet, je dirais, de peinture ou de cadrage ou de photographie comme de la peinture, parce que mon hypothèse de travail, ça serait de dire que pour faire rentrer l'expérience de Lascaux dans l'histoire de la peinture, bah, il faut la photographier comme de la peinture, et il faut la photographier effectivement et la présenter ensuite dans le livre un peu comme des photographies. Vous voyez bien que ces prises de vue frontales aplatissent d'une certaine façon, et ce qui rend la bien vue aussi, d'où la préface, elles aplatissent, mais en même temps elles transforment ces expériences dans les parois vers une peinture plate, et qui permettent à la fois d'intégrer effectivement cette tradition dans une grande histoire de peinture, même l'invention de l'origine de la peinture, mais en même temps, ça permet bien évidemment aussi de faire circuler ces images, et je termine là-dessus. Effectivement, deuxième hypothèse de travail, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont visiter Lascaux à partir des années 40, la connaissance de Lascaux est essentiellement une connaissance photographique, encore plus que l'art primitif, entre guillemets, qui peut se visiter, qui peut se regarder sous forme de masques ou d'autres objets, tandis que Lascaux, effectivement, il faut une empreinte, une réalisation photographique pour faire circuler les images. Donc probablement, c'est les photographies et les photographies de couleurs trop éclairées, si j'ose dire, qui vont créer notre image de Lascaux. Merci.
Merci beaucoup, Arnaud Giesinger. Merci pour ces deux interventions autour de l'art. Donc, on est dans les années 50, chez Bataille. Et maintenant, je vais donner la parole à Thomas Clair, qui est écrivain, poète, qui est connu peut-être par sa littérature un peu à la Pérec, qui est littérature un peu scopique, qui s'intéresse beaucoup à différents espaces, à son appartement par exemple, ou à un quartier, et qui est peut-être aussi connu plutôt par son intérêt pour Roland Barthes, parce qu'il a publié le cours sur le neutre que Barthes a prononcé au Collège de France en fin des années 70, et aussi une nouvelle, L'homme qui tua Roland Barthes. Et donc Thomas va nous parler, je crois, d'une conversion à Bataille. Donc voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Oui, donc je suis très, très clairement le moins qualifié pour parler de Bataille ici. Donc j'aurais un côté un petit peu, enfin, contrairement évidemment à mes deux prédécesseurs. Donc je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, et donc je ne pouvais évidemment pas, enfin, à ce titre, écrire dans les cahiers Bataille. Je n'aurais vraiment pas eu grand chose à ajouter. Et donc je vais essayer d'expliquer un petit peu, voilà, les raisons, mais très rapidement, de cette non seulement parce que je ne suis pas un spécialiste de Bataille, comme, mais bon, enfin, l'ère commence à être connue, puisque, mais je dirais même qu'en un sens, j'ai eu une très longue résistance à Bataille, et je vais donc essayer d'expliquer très rapidement les raisons de cette résistance, et finir dramatiquement sur finalement l'idée d'une sorte de conversion, mais très récente, puisque j'ai lu Bataille l'automne dernier, en fait, avec un peu de retard sur un grand nombre de gens de cette assistance, ce qui fait que je suis finalement une sorte de, voilà, on pourrait dire d'imposteur dont je porte le prénom d'ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, je vais vous présenter mon Georges Bataille, en quelque sorte, portrait de Georges Bataille, ou plus exactement de son homonyme, vu par feu mon ami Édouard Levé, qui a réalisé une série de portraits photographiques d'homonymes, de personnages qui ont été marquants pour lui, dont Georges Bataille, ainsi qu'un certain nombre d'artistes, Eugène Delacroix, Emmanuel Bauve. Je possède le Raymond Roussel qui m'a donné, et donc Georges Bataille, voilà, il avait été le faire photographier, il n'avait pas photographié lui-même d'ailleurs, c'est intéressant. C'est une série qui date de, je ne me souviens plus exactement des dates, de 1997-1998 je crois, Et donc Georges Bataille était l'un de ces homonymes, l'un de ses maîtres. Donc, et évidemment, Édouard Levé, donc artiste et écrivain, était beaucoup plus bataillien que moi. Et il l'a d'ailleurs prouvé d'une façon assez radicale, puisque son goût pour la mort, disons, a été disons, assez performé, si on peut dire. Voilà. Voilà, c'est un peu à partir de cette œuvre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série des œuvres d'Édouard Levé homonyme, puisque ces gens ne sont pas exactement des imposteurs, non, mais plutôt des sortes de parasites, en fait, hein, des parasites de. Édouard, il voit des homonymes, moi j'y vois une sorte de parasite de célébrité, enfin, ou de parasite de grands hommes. Voilà. Et donc je me mets un peu sous la divinité tutélaire de cet homonyme, hein, puisque encore une fois je n'ai pas de raison essentielle de parler de Bataille. Donc je vais simplement essayer d'expliquer très rapidement cette espèce de résistance que j'ai eue à Bataille et que je figure ici un peu allégoriquement par une sorte de déplacement. Ces raisons, elles sont diverses et variées, comme on dit. Je commencerai par un mot de Nietzsche que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans Par-delà bien et mal. Et il y a un aphorisme. Nietzsche écrit ceci. Tu veux des disciples ? Alors tu trouveras des zéros. Je n'aime pas les disciples. Donc, en fait, j'ai une théorie du disciple qui est que le disciple, les disciples sont souvent, disons, des gens qui, pour moi, obscurcissent finalement leur maître, ou plutôt en gênent l'accès. Et ça fonctionne assez bien avec les grands intellectuels, puisque Lacan a des disciples, c'est certain. Foucault en a, c'est l'intellectuel le plus cité dans le monde. Deleuze, n'en parlons pas. Dans l'art contemporain, quel texte n'est pas ornementé d'une citation de Deleuze. Chez Bataille aussi, évidemment, il y a des disciples. Et au fond, je pourrais dire que c'est ça qui m'a gêné, en un sens. Alors, c'est de ma faute, en un sens, évidemment. Au lieu d'aller voir Bataille, je suis en quelque sorte gêné, offusqué, comme on le dit des rideaux, par Bataille. Alors, je dirais qu'évidemment, sur un plan académique, moi-même, je suis une sorte de disciple de Barthes, mais je ne me vois pas du tout ainsi. Et je ne vois pas d'ailleurs trop de disciples de Barthes. Et il y a peut-être cette idée que... Enfin, je me sens très, très infidèle à Barthes, et effectivement, j'ai consacré un livre à cet endroit. Donc, il y a une espèce de trahison nécessaire, au fond, chez les barthésiens, qui me rend la figure de Barthes, disons, sympathique, alors que la figure des maîtres et de leurs disciples m'est un peu pénible. Bon, voilà, ça, c'est un premier point, je dirais. Ça s'incarne comment historiquement ? Ça s'incarne dans le fait qu'en 1995-1997, bon, je lis un petit peu Bataille, quand même un tout petit peu, je me sens à ce moment-là beaucoup plus proche, pour revenir à d'anciennes polémiques, des positions développées par Pierre Alféri et Olivier Cadiot dans la revue de littérature générale, dans lesquelles ils font paraître un texte assez polémique contre Bataille, qui s'intitule hein, « Bataille en relief », et dans lequel il y a une sorte de critique de ce qu'on pourrait appeler l'expérience des limites, la conception sacralisante, on pourrait dire, qui est aussi à l'œuvre chez Bataille. Et à l'époque, au fond, je me sens plus proche, pour des questions finalement assez générationnelles, de cette position, et notamment sur la question de la poésie, hein, même si évidemment ensuite j'aurai d'autres perspectives, mais il y a notamment dans ces positions qui m'intéressent une critique notamment de l'usage des photos du supplicié chinois, où Alféri et Cadiot reprochent en quelque sorte de ne pas contextualiser finalement les photos qui sont en fait des photos plus ou moins produites, si j'ai bien compris, parce qu'encore une fois, je vais peut-être dire des bêtises, mais enfin, peu importe, mais ce sont des photos produites par une sorte de folklore colonialiste qui, crée un peu de la pornographie, disons, accessible, ou à partir de laquelle on pourrait jouir, une sorte de préfiguration de la pornographie Internet, etc. Bon, donc... il y a là, finalement, pour des, si vous voulez, en gros, il y a 20 ans, quoi, donc 20-25 ans, c'est quand même toujours intéressant d'essayer de voir un peu l'évolution intellectuelle et esthétique. C'est une chose qui me passionne chez les écrivains, chez les autres, chez les artistes, hein, leur évolution esthétique, la formation de leur sensibilité, au fond. Et dans la formation de la sensibilité qui a été la mienne, eh bien, voilà, je ressens à ce moment-là, dans les années 90, Bataille comme un peu daté. au fond. Il y a un côté daté. Pourquoi ? En grande partie à cause non seulement de sa captation par ses disciples, et puis aussi par évidemment la valeur systématique de la transgression qui me pose problème également. J'ai aussi, dans ces années-là, j'ai des doutes quant à cette notion de transgression dont je trouve le caractère systématique fortement problématique, disons. Voilà. Et donc cette notion de transgression, elle me paraît parfois déboucher sur une forme d'académisme, dans la mesure où on pourrait dire une sorte de radicalité. Qui n'engage pas complètement au fond ceux qui profèrent cette radicalité. Je ne sais pas, je ne m'exprime pas très bien, mais c'est peut-être une sorte d'effet. Plus on est radical, plus finalement les effets sont paradoxalement inférieurs à cette radicalité même. Enfin, quelque chose comme ça. Alors là, il y a quelqu'un qui le voit quand même assez bien, c'est Barthes, dans un texte antérieur qui est Le plaisir du texte en 1973. Barthes a un rapport ambivalent à Bataille d'ailleurs. Et il dit cette chose assez juste, je trouve, pour faire un petit peu le départ entre Alféric Adiaux d'un côté et Bataille de l'autre. Barthes dit finalement dans les textes de Bataille, il y a une terreur. Hein. Bataille est un terroriste de ce point de vue-là, bon, ce qui pour moi est plutôt une bonne chose en termes esthétiques, hein, évidemment, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais il dit, au fond, Barthes dit, dans Le plaisir du texte, les textes terribles de Bataille sont tout de même des textes coquets. Ça, c'est très beau, je trouve. Et cette espèce d'association entre la terreur et le coquet, je trouve ça vraiment très, très bien vu de la part de Barthes, quoi. Dont par ailleurs, d'autres aspects de Barthes, comme je l'ai dit à l'instant, me déplaisent. Et justement, son espèce de frilosité, parfois, devant l'avant-garde, de ce point de vue-là, Barthes est assez pénible. Enfin, sa peur, on pourrait dire. C'est ça qui le gêne chez Bataille, d'ailleurs. Hein. Ce qui le gêne chez Bataille, c'est l'excès, la dépense, la fête, etc. Le corps, au fond, le corps et la bêtise. Donc, à un moment donné, il faut aussi abandonner Barthes, quoi. Bon. Bien, ne partez pas tout de suite. Vous n'avez pas vu To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, mais bon, je vous en veux pas, vous avez l'air trop jeune. Bon. Say hello to my wife. Donc aussi cette question du sacré, hein, cette question du sacré m'apparaît quand j'ai 30 ans comme douteuse. Au fond, j'ai peur des usages réactionnaires qu'on peut faire du sacré, et Dieu sait qu'on peut. Faire, j'ai dit Dieu sait, j'aurais dû dire Bataille sait, des usages qu'on peut faire du sacré. Il y a quelque chose qui me gêne et je me sens à ce moment-là plus proche, curieusement, de Léris, dont j'aime beaucoup le texte, le sacré dans la vie quotidienne. Je me sens plus proche de ce sacré-là, c'est-à-dire d'un sacré de l'immanence qui touche évidemment les objets, la vie matérielle, le monde des choses et des objets. Curieusement, Bataille ne me semble pas suffisamment matérialiste de ce point de vue-là. Enfin, le monde qui l'entoure, lui, est relativement étranger. Or, moi, quand j'ai 30 ans, je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse à l'art, à la chanson, enfin à un tas de choses, et je ne vois pas trop Bataille là-dedans. Enfin bon, mais bon. Quoi d'autre ? Cette question du sacré me semble ambivalente. Alors, je me rappelle que j'avais été choquée, chère Catherine, à une époque WordPress avait publié un dossier.
Micro.
Quand le sacré voilà l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Arpresse avait. Oui, c'était. Enfin, on pourra en discuter peut-être après, mais ça m'avait intéressé cette question finalement de l'ambivalence du sacré dans la mesure où il y a désacralisation. Finalement, la désacralisation permanente d'une certaine partie de l'avant-garde, me pèse dans ces années où j'ai 30 ans, dans la mesure où elle se heurte à un problème qui est aussi la sacralisation de l'art, etc. Enfin bon, ce sont des vieilles bivesées, mais enfin c'est toujours assez intéressant à voir. La question massive pour laquelle je rejette Bataille, au fond, c'est la dernière et la plus importante, évidemment, tout ça c'est des rationalisations, c'est parce que je suis puritain. Voilà. Mais c'est très important. Et donc, je suis puritain à la fois dans mes goûts esthétiques et littéraires, j'aime des écrivains puritains, Pessoa, Pérec, Kafka, Barthes. Artistiquement, j'aime l'art conceptuel. Par exemple, vous avez parlé de Ad Reinhardt, ou de la peinture, disons, en monochrome, très radicale. Ou j'aime beaucoup la Nouvelle Vague, qui est un mouvement de droite et un mouvement puritain. Donc, fondamentalement, dans l'histoire du cinéma. Bon, donc, etc. Donc, ça me pose un problème. Alors ça, évidemment, quand je dis je suis puritain, je suis plus fortement puritain encore dans les années 90, mais je suis un puritain qui essaye de se libérer de son puritanisme. Voilà la raison de ma présence ici, en fait. Et c'est le thème de mon prochain livre, en fait. Le thème de mon prochain livre sera ça, c'est-à-dire que je cherche, et c'est ça évidemment qui me touche chez Bataille, et c'est évidemment l'aspect, je dirais, peut-être de cette forme de conversion, au sens où, j'ai besoin de Bataille pour pouvoir me contester moi-même, c'est-à-dire pour pouvoir essayer d'entrer dans une autre dimension de l'être. Évidemment, j'apprécie beaucoup chez Bataille lorsqu'il dit que les grands livres sont ceux auxquels l'auteur a été contraint. Ça, évidemment, littérairement, c'est un peu la justification de la vraie littérature. Alors j'essaye, de ne pas tricher de ce point de vue-là avec ce que je suis profondément et avec ce que je n'aime pas, ce que je suis. De ce point de vue-là. Donc évidemment, Bataille, de ce point de vue-là, est très, très utile. Et voilà, mais j'ai quand même déjà trouvé une définition du puritain, une définition personnelle, et je terminerai là-dessus. Le puritain, c'est une putain qui rit. Voilà. Merci. C'est tout. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être on peut. Mais je voulais peut-être ajouter que Bataille n'était pas uniquement transgressif, qu'il y avait aussi un côté plus conventionnel, disons, chez Bataille. Et peut-être c'est là où vous pouvez peut-être trouver quelque chose.
L'auteur de Lady Chatterley était un grand puritain.
C'est le contraire, hein, finalement.
Je pense qu'il y avait des aspects puritains chez Bataille.
Hein. Oui, certainement. Mais cette question du puritanisme est très, très complexe. Il y a des très bons textes d'ailleurs dans les cahiers là-dessus, sur cette question. Évidemment, ce qui me gênait aussi, c'était que la question de l'érotisme, pour moi, était sans valeur à partir des années 90, dans la mesure où moi, je suis plutôt un enfant de la pornographie, en quelque sorte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on glisse d'un c'est un autre monde. Enfin, et Arnaud Labelle-Rojou, par exemple, en parle très bien dans les cahiers. Cette espèce de, il y a un texte là-dessus sur la pornographie. Comment penser la pornographie qui justement a un rapport plus profond avec le puritanisme, me semble-t-il, qu'avec l'érotisme. Mais ça, ensuite, ce sont des débats. Évidemment, je laisse les spécialistes. Mais je sens quelque chose comme ça, si vous voulez. Voilà. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire avec l'érotisme, qui me semble être une notion, encore une fois, un peu datée. Et donc de transgression qui, quand même, il faut bien le dire, l'histoire de l'œil, c'est 1928. Alors là, c'est une époque, pour le coup, historiquement puritaine, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, voilà, Bon, enfin bref.
Je ne sais pas si on va ouvrir la discussion avec le public. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment peu de temps, parce qu'à 21h, la fondation va fermer. Et peut-être on pourra...
Et
13, c'est juste qu'après on n'aura plus de temps de parler et d'être ensemble.
Moi je vais juste, si c'est possible, ajouter un mot sur cette question de transgression, parce que je dirais que c'est aussi peut-être une réserve que j'ai pu avoir moi personnellement, peut-être en raison de la génération à laquelle j'appartiens et pour laquelle le terme de transgression avait pas auprès de laquelle ça n'avait pas tellement d'écho, en fait, parce que on était tellement dans la liberté que la question de la transgression ne se posait pas. Et j'ai le souvenir que, évidemment, après la sortie de La vie sexuelle, parce que j'étais justement française, beaucoup de journalistes me posaient la question de mon rapport à Bataille. Et ma réponse, c'était toujours que, de ce point de vue-là, Bataille ne m'avait pas intéressée et d'autant moins alors aussi que cette notion avait été tellement systématisée, on avait bâti presque une théorie sur cette question de la transgression, que bon, peut-être aussi il y avait un phénomène de rejet, mais c'est surtout que nous vivions, moi j'ai vécu un érotisme qui ne passait pas par la transgression. Et je rappelle ça parce que, en fait, ça a presque été une question de débat entre moi et d'autres intellectuels peut-être plus âgés, et pour qui cette notion de transgression était au contraire centrale. Voilà, qu'il n'y avait pas d'érotisme et sans transgression. Ouais. Mais c'est à débattre.
Je pense que si quelqu'un va avoir une question, on pourrait peut-être la poser directement aux intervenants, à Thomas, à Arnaud, à Catherine. Et j'imagine que aussi dans le public, il y a certainement un de vos voisins et un des contributeurs de Cahiers. Je pense qu'il y a beaucoup. Ah, il y a Jean-Christophe Bailly qui souhaiterait.
Non, c'est juste une remarque sur l'utilisation qui a été au moins deux fois sur trois du mot daté. Ce qui n'est pas daté n'existe pas. Dès lors qu'on fait quelque chose, comme aujourd'hui, on est le 21 ou 22, je ne sais plus, mars, hein, si c'est le 22 en plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais
c'est une remarque qui pourrait bientôt être datée.
Oui, bien sûr. Mais, et donc, ce n'est pas un argument. Et par exemple, au moment où on parle du rapport de bataille à Lascaux, il faut se représenter l'ignorance totale dans laquelle était le monde, y compris le monde savant, par rapport à l'art paléolithique. Aujourd'hui, il y a des discussions. Aujourd'hui, n'importe quel doctorant se permet de juger bataille en ne l'ayant même pas lu. Mais c'est un surgissement, Lascaux, trouvé par des gamins, etc. Et avant, le gars qui avait trouvé Altamira, tout le monde savant lui avait rionné. C'est l'art paléolithique, la peinture paléolithique, c'est une invention du XXe siècle. Et on a été obligé de raconter l'histoire de l'art et même l'histoire des hommes autrement. Et Bataille, par exemple, c'est pas sa faute s'il est mort bien avant qu'on découvre Chauvet, etc. Donc tout ce qu'on a raconté sur l'art paléolithique avant la découverte de Chauvet est daté. Et c'est normal. Et la même chose pour les histoires de transgression. Vous dites, Thomas, ou tu dis, Thomas, le 1928, l'histoire de l'œil, oui. Qu'est-ce qui se passe en 1928, hein? Et c'est où on est en 1928 par la pesanteur morale d'une société, etc. Les surréalistes qui ont essayé de soulever quelque chose, mais ça, c'est nettement insuffisant aux yeux de Bataille, etc. Et pour des raisons qui tiennent à sa configuration personnelle, mais aussi pour des raisons explicitées intellectuellement, continuellement dans sa vie, il pense que justement, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, et ce n'est pas purement pulsionnel, et ça donne ensuite des théories, même une théorie qui déborde sur l'économie avec la notion de dépense, etc. Et je trouve que peut-être que c'est daté, mais c'est très bien que ce soit daté, et on ne fonctionne qu'avec des choses datées. Mais voilà, et si on veut, c'est daté, mais ce n'est pas désuet. Voilà.
Non, mais tu as absolument raison. Je n'utilisais pas daté dans le sens d'une condamnation ou quoi que ce soit, mais simplement d'un décor, d'une ambiance que je ressentais. Mais bien entendu, il y a des évolutions, et ce qui était daté... D'ailleurs, le côté très moderne de Bataille... change aussi parfois en aspect peut-être anti-moderne, mais au sens positif du terme, si on peut dire. Mais il me semble que Bataille parfois peut être perçu aujourd'hui comme anti-moderne d'un certain point de vue. Mais bon, voilà. Ensuite, c'est effectivement, il y a des variations de réception. Là, je souscris entièrement à ton propos.
Merci. Oui, je dirais juste un mot. Enfin, je ne vais pas le développer du tout. Quand on parle de la transgression. Il me semble qu'effectivement, il faut toujours contextualiser. Et ce qu'on a pu vivre dans les années 70, après 68, c'est une chose. Ce que Bataille vivait en 28, avec l'histoire de l'œil, c'en est une autre. Ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler aussi un certain retour de l'ordre moral, ça n'est encore autre chose. Alors, ce que je voulais poser comme question, c'est, il me semble qu'on oublie souvent la différence entre permissivité et transgression. Et il y a dans les discussions sur le péché, Bataille et Sartre, une remarque de Sartre extrêmement intéressante. Il dit, mais on a l'impression que pour vous, la transgression, c'est comme boire une tasse de thé. Voilà. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais intervenir pour rappeler un très beau texte de Foucault, qui est préface à la transgression, alors qui est certainement systématique au sens philosophique du terme, mais qui ne l'est pas quand on voit comment Foucault envisage la philosophie ainsi que Bataille. C'est dans l'hommage à Bataille au moment de son décès. Mmh. Voilà. Donc c'est un petit peu là-dessus, j'avais envie de... peut-être d'échanger aussi avec Catherine Millet sur cette question.
Non, mais
c'était un débat que vous avez connu au moment de votre livre.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je vois pas ce que je pourrais ajouter là. Je suis d'accord dans le sens où je crois que ça a été cette mode de la transgression, ça a été un dévoiement de la notion, en fait. Voilà.
la lumière naturelle de la grotte, est-ce que cela permet de redécouvrir pour un large public un Lascaux, on va dire, originel, et est-ce que cela permet de découvrir du coup la peinture de Lascaux comme une peinture en relief et de sortir de la platitude d'une certaine manière des photos que la lumière un peu violente des photos originelles oblige et force?
Bah oui, on est arrivé à Lascaux 4, hein, donc vous savez que l'original est fermé, il y avait d'autres Lascaux, et effectivement j'ai fait l'expérience l'année dernière. Bien sûr que c'est l'industrie du tourisme d'un côté, mais aussi effectivement tout l'art du fac-similé, donc ce qu'on peut effectivement très bien voir et saisir, c'est faire l'expérience in situ d'un fac-similé qui ressemble beaucoup. Par contre, même problématique, l'éclairage est la même, et c'est précisément ce que je souhaitais de pointer tout à l'heure, c'est qu'entre l'expérience de l'original à l'époque par cette équipe ou du touriste comme nous aujourd'hui du fac-similé, c'est une chose, mais la transformation en images et en images dans un livre faisait déontologiquement des choses de relief, quelque chose qui ressemble à la peinture. Donc évidemment, pareil, Jean-Christophe, c'était, quand je dis daté, je l'ai mis entre guillemets, et j'ai dit ça peut paraître daté au niveau du contenu, et je trouve également trop facile de critiquer effectivement les hypothèses audacieuses. Le fait est que effectivement, c'est probablement par la photographie, et c'est le médium qui circule le plus, que intuitivement ou consciemment, Bataille a connecté cette expérience de l'espace avec l'histoire de la peinture, c'est-à-dire avec les images plates, d'une certaine façon. Et je lis la préface de Skira comme une sorte de mise en alerte aussi sur cette question, et qui dit bah, il y a l'expérience de l'espace, mais il y a aussi la reproduction, elle ne dit pas tout. Il marque cette différence entre l'expérience spatiale et effectivement sa reproduction photographique. Et c'est une problématique vieille du 19e siècle autour de la sculpture, de Wölfflin et compagnie, jusqu'à aujourd'hui évidemment, et accentuée encore par la circulation. Après, on est rentré dans une problématique touristique dans l'expérience de Lascaux. Je pense que là, l'éclairage, il est très bien fait, mais bien évidemment, est-ce que ces œuvres, si on les appelle œuvres, sont perceptibles de cette façon-là, ou est-ce qu'au contraire, le noir ou la petite lampe d'huile n'est pas justement le médium idéal pour percevoir juste une partie de ces choses-là?
Alors, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que ça fait un moment que, enfin, je vous ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention, et il se trouve que voilà, moi j'ai eu la chance de visiter le vrai Lascaux, et en vous écoutant parler, en regardant les photos de Bataille d'ailleurs qu'on a dû publier dans Art Press, j'essayais de rappeler mon souvenir, et je me disais mon souvenir correspond pas à ça. Je vais peut-être vous étonner, mais mon souvenir, c'est un souvenir d'espace. Bien sûr, j'ai vu les peintures, bien sûr, elles m'ont absolument fascinée, mais mon souvenir, c'est que j'étais dans un espace, et j'étais, alors, pour reprendre des mots qui correspondent à l'art contemporain, j'étais dans un environnement. J'étais, parce qu'en fait, ce qui frappe lorsqu'on rentre, alors, pour ce qui est de l'éclairage, c'était... un éclairage assez fort. Il y a un dispositif électrique qui fait que on rentre dans cette salle comme on rentrerait dans une cuisine, quoi. En fait, c'était éclairé comme dans une cuisine. Bon, mais surtout mon souvenir, et c'est pour ça que j'étais troublée par les photos où on voit qu'il faut passer dans un boyau comme ça, les rochers approchent très près des visiteurs là. Moi, mon souvenir, c'est que j'étais dans un espace qui était relativement vaste. Et pourquoi j'ai cette impression, j'imagine, c'est parce qu'il faut imaginer que les parois sont entièrement couvertes, recouvertes. Donc, vous êtes dans un environnement, et la sensation que vous en retirez, c'est une sensation d'espace. Donc, sur place, même avec cet éclairage très fort, vous ne le réduisez pas à de la peinture. Et moi, enfin, de la peinture au sens... du tableau, comme on le voit dans les musées, et comme ensuite c'est voilà, reproduit dans des livres.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a à se poser la question là, moi, je crois qu'on s'est intéressé à Lascaux, qu'on l'a intégré dans l'histoire de l'art via le texte de Bataille, entre autres, parce qu'on élargissait aussi la notion de l'art, on élargissait la notion de la peinture. On n'était plus dans une définition de la peinture comme une image plate, encadrée et limitée. On était déjà sorti de cette définition de la peinture. Et puis, si vous poussez votre raisonnement jusqu'au bout, c'est pas des audioguides qu'il faut distribuer aux visiteurs des musées, c'est une petite lanterne ou un bougeoir, parce que en fait, quelles sont les peintures, toutes ces peintures qu'on voit dans les musées, elles n'ont pas bénéficié de la lumière qu'on leur donne aujourd'hui. Donc ce que vous dites de Lascaux, on peut le dire de toute l'histoire de la peinture jusqu'à l'invention de l'électricité. Donc en fait, il faudrait tous visiter les musées dans de bonnes conditions, si je comprends bien, avec une petite bougie à la main. Donc je ne sais pas si c'est pas un peu de la sophistique quand même de raisonner comme ça.
C'était pas du tout mon raisonnement, mais c'est bien une question qu'on se pose en histoire de l'art aussi, ce qu'on fait quand on met un tableau dans un musée qui était dans une église. Donc je vais dire c'est une vieille problématique, mais j'ai parlé plutôt
moi,
de la question photographique.
Il faut balayer cette problématique. La peinture, c'est le Lascaux aujourd'hui ou Titien ou n'importe qui ou Manet, c'est nos contemporains, c'est ce que nous en faisons aujourd'hui. On les voit à notre façon et voilà. Moi, je ne crois pas qu'il faille se préoccuper de ça.
Bon. En tout cas, Bataille ne fait pas l'unanimité.
Non, c'est pas Bataille.
C'est à partir de Bataille. Bon, peut-être on va, comme ça, clôturer ce panel et on va pouvoir être un peu ensemble, peut-être. Et je voulais juste, pour terminer, dire, parce qu'il y avait cette question de spécialité, être spécialiste de Bataille. Personne ne veut pas être spécialiste de Bataille. Il y en a certainement, mais je me dis que finalement, quand Bataille devient un objet d'étude, il y a quelque chose d'essentiel de Bataille qui s'échappe, qui d'un coup n'est plus là. Et l'idée de ce dictionnaire était aussi de faire vivre les auteurs avec leurs propres pensées, et Bataille est uniquement un point de départ ou un stimuli qui permet de renouer, stimulus, de renouer avec quelque chose de plus vivant, donc de donner la vie. Et je voulais aussi dire tout simplement que c'était une aventure extraordinaire de faire ce dictionnaire, de travailler avec tant de personnes, certains que je n'ai jamais vus, que je vois ce soir, certaines avec qui me sont très proches. Et je pense que pour nous deux, c'était quelque chose de inédit. Et nous voulions vous remercier très chaleureusement pour tout le travail, pour tout votre don que vous avez donné de vous. Et voilà, merci beaucoup.